C'est l'heure, comme chaque jeudi, de retrouver nos amis du KKL. Et comme tous les 15 jours, c'est Yitzhak Mopsi que nous retrouvons ce matin. Bonjour Yitzhak.
Bonjour Didier, bonjour à toutes nos auditrices et à nos auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin, Yitzhak. On va parler avec vous des activités du KKL en ces temps très compliqués. On verra un petit peu plus tard dans cette chronique ce qui se passe en réalité sur le terrain, de votre point de vue et dans votre action. Avant cela, je voulais revenir avec un invité que vous nous avez proposé de rejoindre. Le KKL a invité une délégation française de journalistes et de politiciens à venir en Israël se rendre compte par eux-mêmes finalement de la réalité du terrain. Et donc on va retrouver maintenant, et on le remercie d'être avec nous, Ariel Assaf, responsable de ce groupe qui a visité Israël. Bonjour Ariel Assaf et merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Oui, alors bonjour Didier, bonjour aux auditeurs. Je voudrais juste dire que je ne suis pas le responsable du groupe. Le responsable du groupe était un membre du KKL. Moi, je suis un guide touristique freelance qui était engagé par le KKL pour gérer ce groupe. Mais il y avait un responsable du KKL dans le groupe.
D'accord. Ben, c'est déjà très bien. Vous les avez guidés à travers Israël. Alors, votre ressenti de cette délégation, parce qu'on sait, enfin vous n'êtes pas en ignorant probablement que la presse et la couverture de ce conflit par les médias en Europe, en tout cas, est assez orientée et pour le moins, et c'est un euphémisme que de le dire, orientée contre l'offensive israélienne. Alors, est-ce que vous avez noté une différence entre tous les participants de cette délégation française de journalistes et de politiciens, je le répète, entre le début de la visite et la fin de la visite, par exemple ?
Je pense que oui, surtout dans les discussions que nous avons eues, mais je voudrais d'abord préciser que quand les médias parlent de la guerre actuelle, on parle surtout des destructions, des horreurs, de ce qui s'est passé en Israël et maintenant de la riposte militaire. Ce programme, cette visite de 4 jours a voulu aussi montrer d'autres aspects, c'est-à-dire que nous sommes allés rencontrer les civils israéliens déplacés dans les hôtels ou dans les institutions qui les ont accueillis. Nous avons rencontré les organisations de soutien qui mobilisent les civils, qui préparent des habits, des jouets pour les enfants. Donc la mobilisation civile pour aider la population déplacée. Donc on a vu encore d'autres aspects, on n'a pas vu uniquement le côté de la guerre, il y a encore beaucoup d'aspects en Israël autour de ça, et ça fait aussi un grand changement de voir la perception des Israéliens de ce qui se passe, l'entraide des Israéliens. Nous avons aussi été, bien sûr, sur les sites de mémoire des disparus, des victimes des attentats sauvages du 7 octobre, nous avons aussi été devant le mur des otages. Mais on n'a pas voulu montrer que le côté de la guerre, mais aussi le côté civil, la mobilisation incroyable qu'il y a derrière, et donc la force morale du peuple d'Israël.
Bien, et votre ressenti toujours, comme vous le dites, vous avez visité à la fois des lieux qui ont sur lesquels se sont perpétrés cette barbarie, vous avez aussi montré, je le rappelle, et vous le rappeliez à l'instant, la vie qui continue aussi, hein, parce que c'est vrai que parfois les images sont un petit peu édifiantes, quel que soit le conflit d'ailleurs, vous avez des images des champs de bataille, et puis vous allez 30 ou 40 kilomètres plus loin, et vous avez une vie, entre guillemets, normal, qui semble normal en tout cas au vu des images. Est-ce que cette délégation vous a paru, je dirais, tout à fait ouverte à découvrir, ou bien vous les avez sentis remplis de préjugés?
Non, ce que je veux dire, c'est que chacun vient avec son idée a priori, mais beaucoup de choses ont changé. C'est le fait, par exemple, que là où on arrive, on est reçu par un maire, on est reçu par un responsable militaire. La première chose qu'on dit à l'arrivée, alors, un instant, s'il y a une alerte, alors voilà où on va aller, où sont les abris. C'est une mise en condition tout le temps. D'ailleurs, le groupe en a fait l'expérience, puisque sur la route, les alertes ont retenti. On a dû rapidement, le bus s'est arrêté, on a dû rapidement descendre du bus et se coucher par terre à côté du bus. Donc, on a compris que l'ambiance est un peu spéciale. Ça change de lire dans les médias ce qui se passe, ou de ressentir un peu comment les Israéliens le ressentent. Maintenant, ce qui a fait le grand changement, ce n'est pas, c'est bien sûr le visuel et le fait d'avoir rencontré des gens qui ont raconté leurs expériences, mais aussi chaque soir, on a eu 2 heures de conférence avec des délégués, avec des gens de très haut niveau, des politiciens, des militaires qui nous donnaient une idée qui a beaucoup fait réfléchir justement le groupe, parce qu'on a entendu un éventail d'idées depuis la présentation du fait que Israël va éradiquer le Hamas et on reviendra après à la bande de Gaza et tout reprendra comme avant, vers des positions qui disaient il n'y a plus possible, le problème n'est plus le Hamas, mais c'est Gaza, c'est 60% de la population qui soutient le Hamas, donc Gaza, les Gazaouites ne peuvent plus habiter à côté de nous, il faut penser à une autre solution, jusqu'à un général qui a dit le problème n'est pas le Hamas, ni même les Arabes de Gaza ou d'Israël, mais c'est Téhéran, et tant que Israël, dans le cadre d'une coalition européenne-américaine, n'aura pas détruit le Téhéran, on n'arrivera pas à une solution. Donc il y avait vraiment des idées très, très larges, des opinions très divergentes, et ça fait réfléchir de façon beaucoup plus large à ce qu'on réfléchit d'habitude, et j'ai vu des questions, c'est-à-dire que beaucoup étaient affolés parce qu'ils ont commencé à comprendre que la guerre n'est pas une guerre d'Israël face au Hamas, mais une guerre de civilisation qui risque de rater vers l'Europe aussi.
Bien, ben, écoutez, c'est tout le mal qu'on souhaite, parce qu'en définitive, c'est vrai qu'il y a une désinformation. Les mauvaises langues diront qu'elle est des deux côtés du conflit, mais en définitive, les gens qui auront vu de leurs yeux cela, les journalistes notamment, je pense, et aussi les politiciens, parce qu'à l'Assemblée nationale en France, en tout cas, le débat fait rage aussi sur les responsabilités de qui, de quoi, et bien malheureusement, souvent, on renvoie le Hamas et Israël dos à dos, alors qu'on nous oublie trop souvent que c'est un État démocratique contre une organisation terroriste, donc le dos à dos n'est absolument pas de mise pour le coup. Et les journalistes, eux, peut-être que grâce à cette visite et à votre travail, ils vont pouvoir donner une information un petit peu moins orientée, un petit peu plus neutre, en définitive, plus éthique, je dirais.
Je l'espère, parce que c'est aussi le problème, ce qui peut être publié en France, que le public est prêt à accepter. Je pense que le plus gros choc qu'ont ressenti ces journalistes, c'est quelque chose qui, à part un ou deux intervenants, mais la plupart, la grosse majorité des intervenants, la grosse majorité des Israéliens, leur a fait comprendre que, en fait, cette attaque du Hamas, c'est l'enterrement final et officiel des accords d'Oslo et de la solution à deux États. Alors, la France, qui n'arrête pas de parler de la solution à deux États, mais les Américains aussi, mais un petit peu moins fort, comprennent que, pour Israël, c'est fini. Cette solution à deux États qui a été prônée par Oslo, on en a tenté cette expérience en 1993. En 2005, on a fait un pas de plus, puisque à Gaza, on s'est entièrement retiré. On a délogé les citoyens israéliens qui habitent la bande de Gaza dans le Gush Katif. Donc, il n'y a plus de présence civile israélienne, il n'y a plus de présence militaire israélienne, donc ni occupation, ni implantation. Donc, d'après la rhétorique de la solution à deux États, on aurait dû avoir les relations de paix privilégiées avec Gaza. Or, c'est justement à Gaza que rien ne fonctionne et qu'on est attaqué tous les quelques années avec une nouvelle manche. Donc, je pense que le grand choc a été, c'est que des gens qui sont tellement habitués, qui ont été formatés depuis 30 ans, entendre la solution à deux États, la solution à deux États, la plupart des intervenants m'ont expliqué que cette solution à deux États est morte.
Bien, ben merci beaucoup en tout cas Ariel Assaf d'avoir accepté de venir parler de cela avec nous. Je me tourne vers vous Yitzhak, vous êtes responsable du KKL Israël et on va revenir maintenant aux actions, et c'est au pluriel bien sûr et c'est volontaire de ma part, qu'exerce le KKL dans cette période très difficile de guerre. Alors brièvement, parce que le temps nous est compté, je sais qu'on est pas, on a commencé un peu plus tard que d'habitude, mais l'horaire est l'horaire. Quelles sont les actions que vous menez encore et toujours sur le terrain après ces 26 premiers jours de guerre, Yitzhak?
Eh bien, écoutez, d'abord, je tiens à souligner ce qu'a dit Ariel concernant la mobilisation extrêmement importante et même plus que ça de la population israélienne qui est vraiment hors du commun, et bien sûr le KKL qui était, on a dit souvent, toujours mobilisé pour Israël, tout le temps, hein, depuis qu'il existe. Plus de 120 ans. Donc, notre action est faite à plusieurs niveaux. Notre directeur général a décidé de développer une forme relativement pour le cas quelque chose d'important de 100 millions de shekels, et ceci pour aider toutes les municipalités, tous les kibboutzim qui se trouvent dans le sud et dans le nord, et aussi d'abord pour financer et aider, faire avancer ce qui s'appelle en Israël les kitot kolenot, c'est-à-dire les classes d'alerte, hein, c'est ceux qui, entre autres, qui ont sauvé une partie de ce kibboutzim. C'est des gens, des volontaires à l'intérieur, mais il faut bien sûr leur donner du matériel, de la communication, etc., etc., dont le Kakel a pris sur lui de financer une grande partie des fonds dont on a besoin pour cette activité. Et en plus de ça, le Kakel a pu déjà, grâce à sa mobilisation, a acheté 15 ambulances qui vont circuler, ambulances spéciales qui sont bien sûr spéciales pour cette région, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tirer dessus, hein, on veut dire, et qui coûtent beaucoup, et donc le Kakel les a achetées. Et parallèlement, je tiens à souligner sa question éducative, le Kakel a pris sur lui, parce qu'il pensait que c'était important, et c'était plus que les limites définies par le gouvernement israélien sur les capacités d'hébergement, de financer et d'amener à peu près 3000 personnes, l'individu, qui se trouvent un peu plus loin que la frontière proche, qui eux sont déjà pris en charge, et qui se trouvent dans les hôtels, dans les auberges, etc. Tout ça sur le financement du Kakel, on parle à peu près de 3000 personnes. Et quand on les met dans un hôtel et une auberge, simplement on ne les met pas pour qu'ils reçoivent de la nourriture, mais aussi nos équipes éducatives, un peu partout, s'occupent de créer, je dirais, des ateliers spéciaux pour les enfants qui sont malheureusement hors scolarité puisqu'ils sont déplacés, d'un côté pour leur faire un peu vivre, et autre chose que les graves qu'ils ont connus pendant cette période
Bien, ben voilà un topo, un tableau que vous nous dépeignez avec précision. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites, Yitzhak, à titre personnel, bien sûr, en tant que responsable du KKL Israël, et Kol HaKavod à toute l'organisation du KKL qui est extrêmement active, on le sait, sur le terrain. Yitzhak, nous, on se retrouve dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, on parlera du KKL, bien sûr, comme chaque semaine, mais avec Maxi Kliki du KKL Belgique. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous ce matin.
Merci à vous. Hein. À bientôt.
Si je pouvais ajouter un mot, je voudrais juste remercier le KKL parce qu'avoir maintenu, avoir organisé cette délégation, ce n'était pas du tout évident. Le programme changeait toutes les quelques heures d'après les contingences, les permis qu'on avait de l'armée d'aller à tel et tel endroit. Les gens qui devaient nous recevoir, qui étaient occupés à d'autres tâches, c'était vraiment une gageure, et bravo au KKL d'avoir organisé ce groupe, d'avoir maintenu et d'avoir réussi vraiment un programme formidable.
Ben voilà, et pourvu que ça serve et que les journalistes et les politiciens qui sont venus auront pu peut-être un peu plus d'objectivité par la suite. Merci infiniment à tous les deux et dans 15 jours, Yitzhak, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique du KKL.